Bon matin. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigué. Je vais essayer d'être enthousiaste ce matin pour garder votre attention à son maximum. C'est ça, la période des fêtes, une belle occasion qu'on a, oui, de premièrement, de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Dieu a fait, de venir nous visiter. C'est une belle occasion de célébrer ça même aussi en famille. Et puis d'en profiter. Les fêtes étaient quelque chose de bien apprécié et que même Dieu encourageait son peuple à avoir certaines fêtes qui marquaient dans l'année dans le but de souvenir ce que Dieu avait fait en leur faveur. Et ça, c'est notre privilège pour nous en tant que chrétiens de se souvenir de ce que Jésus a fait. Quoi qu'il en soit, on arrive, on est le 26 décembre. Noël, du moins c'était hier, est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Noël, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Bien, ça, à tous les jours pour nous, c'est le privilège, c'est la joie d'appartenir à un merveilleux Sauveur et Seigneur qui est Jésus-Christ quand on est son enfant. Et on arrive aussi dans une période de l'année où on est maintenant le 26 décembre et puis c'est la période des résolutions. Ça, c'est après le 1er janvier, habituellement, là, les résolutions. Mais avant les résolutions, c'est quoi? Bien, avant qu'on arrive au 1er janvier, c'est les bilans. Hein? Les bilans. Ah, c'est pour ça que vous l'aviez oublié, hein? Les bilans sont moins le fun, un petit peu. Les bilans parce que les bilans, c'est l'occasion de dire, bien, ma résolution que j'avais prise, est-ce que je suis rendu où ce que je voulais aller, finalement? Quand on pense à bilan, on pense premièrement peut-être à bilan financier, où on en est dans nos finances, mais c'est pas simplement ça. On pourrait parler de bilan de santé, hein? Où est-ce que vous en êtes avec votre santé? Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Et quand on fait un bilan de santé, bien, des fois, on est confronté devant certaines révélations qu'on ne peut pas rien faire ou on peut faire quelque chose. Mais ça peut être décourageant ou encourageant. Il peut y avoir des bilans familiaux. Peut-être que vous faites un bilan de couple à un moment donné où est-ce que vous vous asseyez. Puis on en est où? En famille, avec nos enfants, avec notre couple ou peut-être dans vos bilans, dans un bilan de où vous en êtes dans votre marche, dans votre vie, avec par exemple dans vos études ou quoi que ce soit. Les bilans peuvent nous amener certaines vérités qui sont dures. Des fois décourageantes, des fois difficiles, des fois encourageantes et qui nous donnent de l'espoir. Peut-être que les bilans peuvent m'amener, par exemple, à réaliser que j'ai pas tout lu ma Bible cette année. Je voulais prendre l'engagement de... Ça sonne fort au matin, hein? On voulait être sûr de vous garder réveillé. Peut-être que vous dites, ben j'avais pris la résolution de tout lire ma Bible, puis j'ai arrêté à Lévitique. Ça a été un petit peu plus difficile que je pensais. Ou peut-être que vous dites, ben quand je regarde mon couple, peut-être que je réalise que mon couple bat de l'aile encore sur certains domaines. Ou que je lutte encore avec certains péchés, ou que j'ai encore de la difficulté en certains domaines de ma vie à goûter que Dieu est bon. Ce matin, ce que je veux voir à travers la parole, c'est l'encouragement qu'on peut avoir à travers Dieu, ce que Dieu est. J'aimerais ce matin qu'on fasse, avant de faire notre bilan, qu'on fasse celui de Dieu. Êtes-vous d'accord? On va regarder, lui, Dieu, il en est où dans son bilan? Parce qu'en Dieu, on peut trouver de l'encouragement si on est découragé. En Dieu, on peut trouver de l'espoir si on en a perdu. Parce que Dieu est la source de toute réussite. Et là, je ne sous-entends pas un évangile de prospérité où en Dieu, on peut avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire sans qu'on soit impliqué. Mais les Écritures sont claires que Dieu est celui qui contrôle nos vies. Dieu est celui qui dirige toutes choses et en qui on peut trouver toute réussite si on a des domaines dans nos vies où il y a du découragement. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Samuel, chapitre 22. Dieu est la source de toute réussite. Si on est des enfants de Dieu, on peut trouver en Dieu de l'encouragement. On peut trouver en Dieu de l'espérance. On peut trouver en Dieu que si nos bilans sont pas parfaits, si nos bilans ils ont des carences, ils ont des manques, que Dieu a un bilan parfait. Et que quand on se repose sur Dieu, ben on trouve cet encouragement-là. Et puis pour faire le bilan ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en revue différentes œuvres de Dieu. Puis ensuite, sonder dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, si on peut constater cette œuvre-là dans nos vies. Si on peut constater la main de Dieu dans nos vies. Est-ce que Dieu est encore présent en 2010? Est-ce que Dieu était encore disponible en 2010? Ben absolument. Est-ce qu'il a manqué? Est-ce qu'il a oublié? Ou est-ce que, pour encore une fois, en 2010, Dieu est digne de toute adoration? Dieu, regardez qu'est-ce que David dit. 2 Samuel 22, on va lire les versets 1 à 4. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » David est en train de faire le bilan, il est en train de dire « Dieu est mon rempart, Dieu est ma forteresse, Dieu m'a délivré, Dieu a été présent tout au long de ma vie, tout au long des événements, puis même il m'a délivré de mes ennemis. » Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? « Loué soit l'Éternel. » David a vécu à une époque bien lointaine de la nôtre, un peu plus de 3000 ans, mais le temps présent, c'est aujourd'hui. On est le 26 décembre 2010 à 11h07. C'est nous qui avons le privilège ce matin de pouvoir se tourner vers Dieu et de regarder Dieu. Est-ce que tu as été présent en 2010? Et la réponse est bien évidente que c'est oui. Mais qu'on va pouvoir trouver dans ce que Dieu a fait tout au long de 2010, de pouvoir dire nous aussi comme David, de dire Dieu, tu ne changes pas. Tu es demeuré le même et puis en 2010, on peut encore le constater. Avant qu'on se lance dans ce bilan divin de la personne de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu nous dirige dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Parce que comme David pouvait dire, Dieu, on peut le constater encore aujourd'hui, que tu es présent, que tu nous aimes, que tu mets ta main dans nos vies, que tu t'intéresses à nous. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut ouvrir ta parole, on veut que tu nous enseignes, on veut que tu nous montres qui tu es. C'est toi qu'on veut découvrir, c'est de toi qu'on veut être enseigné. Et on te prie de mettre le doigt, Seigneur, dans nos vies, à chacun d'entre nous, pour que tu nous encourages, pour que tu nous relèves, que tu nous fortifies, mais que tu nous emmènes aussi à devenir de plus en plus semblables à toi. Et c'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Dieu est la source de toute réussite et sa fidélité le témoigne bien. Il y a des choses qui sont bien fidèles d'année en année. On arrive bientôt en janvier et qu'est-ce qui revient à chaque année? La grippe. Hein? Elle y échappera jamais. Hein? Elle est là à chaque année, puis à chaque année, puis à chaque année. C'est la fidélité de la grippe. Alors, il y a des événements comme ça qui se reproduisent et qui se reproduisent, qui reviennent constamment. La fidélité, elle est importante pour une relation, toute forme de relation. Si on a un gouvernement qui nous fait une promesse, par exemple, et qui ne la tient pas, qu'est-ce qui va se produire? On va perdre confiance. On va avoir de la difficulté, le mandat suivant, à dire « Hey, je me souviens qu'il n'a pas tenu ses promesses. » Et puis, on va avoir de la misère à lui refaire confiance. Dans une relation de couple, dans une relation, quelle que soit la relation, la fidélité, elle est importante. Dieu, sa fidélité, témoigne bien de qui il est. Dieu a toujours été fidèle. J'aimerais juste vous faire quelques citations d'hommes dans les Écritures qui ont témoigné de la fidélité de Dieu. Moïse dit « Rendons gloire à Dieu, c'est un Dieu fidèle » dans Deutéronome 32. Néhémie a dit dans Néhémie 9, verset 33 « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. » Ésaïe dit simplement une phrase « L'Éternel est fidèle. » Un psalmiste, Ethan, a dit « Ma bouche fera connaître ta fidélité. Ta fidélité est célébrée dans l'assemblée des saints. » David a dit « Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. » où sa fidélité durera toujours, où un autre psaume dit « La parole de l'Éternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Paul nous dit « Celui qui vous a appelé à la communion de son Fils est fidèle. » Dieu est fidèle. Est-ce que vous croyez ça? Ces hommes-là, dans le passé, ont témoigné de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Les œuvres de Dieu sont fidèles. Paul nous dit aussi dans Timothée que si nous, on est infidèles, Dieu, est-ce qu'il change? Dieu reste fidèle. Dieu demeure fidèle. Ces hommes qui ont témoigné de la fidélité de Dieu l'ont expérimenté, l'ont goûté. Est-ce que nous, pour nous, aujourd'hui, en 2010, qui finissons 2010, on peut témoigner, nous aussi, de dire « Dieu a été fidèle cette année ». Qu'en est-il de la fidélité de Dieu en 2010? Est-ce que tu peux déclarer que Dieu a été fidèle dans ta vie cette année? Est-ce que tu peux observer ça? Peux-tu constater la présence de la main de Dieu dans ta vie? Si tu réfléchis à l'année qui vient de passer, est-ce que tu peux constater la main de Dieu dans ta vie, qu'il a été présent? Bien que certaines circonstances sont difficiles, certains événements sont durs, est-ce que tu peux constater que Dieu est demeuré le même, que Dieu était présent même dans ces circonstances-là? Est-ce que Dieu s'est tanné de nous puis a arrêté d'être notre Père? Absolument pas. Dieu est demeuré fidèle en 2010. Quel est le bilan de Dieu dans sa fidélité? Et témoigne qu'il n'a jamais failli. Et témoigne, les Écritures témoignent que Dieu est toujours fidèle. Dieu est la source de toute réussite et sa fidélité le témoigne bien. Mais aussi une autre chose, sa bienveillance le témoigne bien aussi. Tournez avec moi dans Actes 10, s'il vous plaît. La bienveillance et la bonté vont ensemble. C'est souvent deux mots qui décrivent, par exemple, une personne qui est bon va naturellement être conduite à mettre en œuvre cette bonté envers autrui, envers une autre personne, pour manifester de la bienveillance. Alors, une personne qui est bon va pas simplement se définir avec un concept abstrait de dire « je suis bon », mais si on dit ça d'une personne, par exemple de Dieu, c'est parce qu'il le manifeste. Et ça, c'est de la bienveillance. Et dans Actes 10, verset 38, ça dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus, quand il était sur la terre, a manifesté une bienveillance, a manifesté sa bienveillance. La bienveillance de Jésus, c'est quand un aveugle à Jéricho criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Qu'est-ce qu'a fait Jésus qui est entouré d'une foule? Il a fini par arrêter puis d'aller voir cet aveugle-là. C'était la bienveillance que Jésus a eue avec cet aveugle-là. La bienveillance que Jésus a eue envers un lépreux, par exemple, qui l'a touché, qui l'a guéri de sa lèpre. La bienveillance, par exemple, d'une veuve qui est en train d'aller enterrer son fils et que Jésus a ressuscité. La bienveillance, c'est quand Jésus a nourri une foule parce qu'il était trop tard pour la renvoyer chez elle. Il a manifesté sa bonté envers elle. La bienveillance, on pourrait dire la miséricorde aussi, mais on le verra dans un autre aspect, mais de la bienveillance envers une prostituée ou une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, que Jésus a sauvé d'une mort certaine, ou bien de la bienveillance que Jésus avait envers les enfants, quand il se penchait pour les accueillir, puis qu'il disait à ses disciples, « Empêchez-le pas de venir me voir, je veux les accueillir. » C'est la bonté de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. Mais maintenant, qu'en est-il de la bienveillance de Dieu pour nous en 2010? Est-ce que Dieu a été bienveillant avec toi? Est-ce que Dieu a été bienveillant envers nous en 2010? Est-ce qu'on a manqué de nourriture? Est-ce que vous avez manqué de vêtements? Est-ce que vous avez manqué la consolation que Dieu voulait vous donner si vous étiez dans une période de tristesse ou de deuil? Est-ce que Dieu vous a secouru dans vos besoins en 2010? Est-ce que Dieu avait encore cette bienveillance en 2010? Est-ce que Dieu vous a sauvé la vie? Peut-être même sans que vous le sachiez. Peut-être. Peut-être. Est-ce que Dieu a influencé ou transformé une circonstance en votre faveur? Manifestait la bienveillance de Dieu sur nos vies. Comment? Il fait souvent. C'est ça. Et c'est ça qu'on veut pouvoir dire, comme David, loué soit l'Éternel, parce qu'il le fait souvent. Si je pose ces questions-là, c'est pour qu'on puisse réfléchir dans nos vies de l'évidence, par exemple, de la fidélité de Dieu, de l'évidence de la bienveillance de Dieu en 2010. Est-ce que Dieu a changé depuis le temps de David ou depuis le temps des Actes, puis en 2010? Non. La bienveillance de Dieu est encore disponible. Dieu est la source de toute réussite parce que son bilan témoigne bien d'une perfection et sa grâce le témoigne bien aussi. Je veux juste vous faire quelques citations. Dans Psaume 50, verset 15, ça dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » 1 Pierre 5, 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Paul, il pouvait témoigner lui aussi de cette vérité-là, où à un moment donné, il disait « Il a une écharpe dans ma chair qui a été placée, puis trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, puis il m'a dit « Ma grâce te suffit. » Il lui a dit non avant aussi. Hein? Il lui a dit non, mais ma grâce te suffit. La grâce était suffisante pour la vie de Paul à ce temps-là. Est-ce que la grâce de Dieu en 2010 était encore disponible pour nous? Ben oui, toujours. Est-ce que la grâce de Dieu est encore présente? La grâce, c'est ce qu'on... C'est l'opposé de ce que le Père Noël enseigne. Hein? Parce que le Père Noël dit, si t'es gentil là, pendant l'année, là, peut-être qu'on va te donner un beau cadeau. Hein? Mais en fait, ce que Dieu lui dit, c'est que la grâce, c'est quoi? C'est que j'ai une faveur pour toi, puis tu ne le mérites pas. Puis je vais te le donner. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu fait envers nous d'une chose qu'on ne mérite pas. Le salut, par exemple. Est-ce qu'on mérite d'aller au ciel? Mais Dieu nous a fait la grâce, par exemple, d'y aller quand on se repent par la foi de nos péchés, qu'on place notre foi en Jésus-Christ. La grâce témoigne de ce que Dieu est. La grâce, c'est le secours que Dieu me fait quand je ne suis plus capable. Parce que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pour ça que la grâce était suffisante pour Paul. Parce qu'il y avait probablement un problème d'orgueil, Dieu le gardait dans l'humilité. Et puis, quand tu vas dépendre de ma grâce, Paul, c'est ma gloire qui va ressortir. C'est moi qui vais en sortir. C'est moi qui vais être glorifié, et pas toi. Mais la grâce est encore disponible pour nous en 2010. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que la grâce de Dieu était suffisante pour vos vies cette année? Oui. Merci, Mme Durand. Hein? Vous m'encouragez le matin. Mais oui, la grâce est surabondante. Hein, c'est bien ça. Hein? L'eau, le péché a abondé. Qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde. Dieu est riche. Dieu est riche en grâce. Puis il veut nous la donner. Puis elle est encore disponible pour nos vies encore aujourd'hui. La grâce, c'est le standard que Dieu me demande de faire. Puis que je ne suis pas capable. Puis que par sa grâce, par son aide, je crie à lui. Puis je dis, Dieu, viens-moi en aide. Puis qu'il m'accompagne. Et qui me donne sa grâce pour que je puisse faire ce qu'il me demande. C'est la grâce de Dieu qu'on a besoin encore en 2010, qui se manifeste encore pour nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu a mis à ta disposition sa grâce cette année pour être, par exemple, un bon mari, ou une bonne épouse, ou un bon parent, un bon étudiant, un bon citoyen, ou un bon serviteur? Qu'on peut dépendre de sa grâce pour être un enfant de Dieu qui représente ces diverses sphères de nos vies. La grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on ne mérite pas. Qu'as-tu reçu en 2010 que tu ne méritais pas? Peux-tu constater la grâce de Dieu dans ta vie cette année? Je suis sûr qu'elle était présente. Je suis sûr qu'elle était disponible. Mais il faut s'arrêter pour dire, Dieu, je vois ta grâce. Je vois que ton bilan est parfait. Dieu est la source de toute réussite et son bilan témoigne bien et sa miséricorde le témoigne aussi. Tournez avec moi dans Luc 1. À un moment donné, j'ai une fille qui a 20 mois, que ma femme me rappelait ce matin, là. 20 mois, OK? Elle est toute petite. Elle est capable de marcher, puis elle est capable de grimper, puis quoi que ce soit, puis faire encore, commencer à faire des petits mauvais coups, là, des petites choses comme ça. Et puis là, à un moment donné, elle se présentait proche de la porte, vers l'intérieur de la porte, où la porte a pli, là, où il y a les pentures. Puis elle avait mis ses doigts là. Puis on s'en était pas rendu compte, puis nous, on a fermé la porte. Puis elle avait le petit doigt pris, puis elle tirait, puis elle pleurait, puis elle criait. Puis avant que nous autres, on allume, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on voit le doigt pris. Puis là, en tant que parent, comment est-ce qu'on se sent? Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour comprendre ça, là. Mais spontanément, on souffre avec. Le doigt pris dans la porte! Et puis là, il vient comme une espèce d'émotion, là, où ce que ça nous prend. Puis là, on a quasiment mal au ventre. Et puis là, quand on a fini de passer nos émotions, là, après ça, on rouvre la porte. mais on vit tout ça. Mais la miséricorde de Dieu, là, la miséricorde que Dieu a envers nous, c'est ça. Puis Dieu est un petit peu plus vite que sa gâchette que nous autres pour ouvrir la porte, là. Mais le mot en hébreu, ra'amim, est un pluriel qu'on a traduit par miséricorde, mais qui veut dire entrailles. Le ventre. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Les Hébreux considéraient que les entrailles, en tant que siège de tout sentiment, pouvaient s'émouvoir sous le coup de la douleur ou d'une peine. C'est peut-être en ressentant ce qu'on appelle des papillons dans le ventre, comme on dit, qu'il en était arrivé à considérer la miséricorde comme un sentiment qui a son origine au sein même de la personne. La miséricorde apparaît comme un attachement à un autre être. La miséricorde que Dieu a en notre faveur, c'est cet attachement que Dieu a ressent dans ses entrailles envers nous. Il va s'émouvoir devant nous qu'on a le doigt pris dans la porte, qu'on est pris avec le péché, qu'on a des difficultés et qu'on a besoin de secours. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Regardez Luc 1, verset 76. Dieu s'émeut avec tendresse comme un père, je suis pas en train de lire Luc, là, je suis en train de finir ma citation, là. Comme un père ou une mère à l'égard de ses enfants. Ça, c'est l'attitude de Dieu envers nous. Luc 1, verset 76, et c'est Zacharie qui est en train de prophétiser, en train de dire sur cet enfant Jean-Baptiste qu'elle est arrivée. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et là, regardez bien ma traduction, qu'est-ce qu'elle dit? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Les entrailles de notre Dieu, les entrailles de sa miséricorde, Dieu a été profondément ému de nous voir, puis il voulait nous envoyer un secours. Puis il voulait venir à notre secours en nous envoyant son fils et en envoyant cet enfant qui était Jean, qui allait annoncer la venue. Matthieu 9, 13 dit, « Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à quoi? À la miséricorde et non au sacrifice. » Luc 23, 23 dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus a enseigné sur la miséricorde. Heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Dieu nous a enseigné, par exemple, dans Michée, « Je t'ai fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, puis que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux qui veut nous transmettre cette valeur-là. Le bilan de Dieu sur sa miséricorde en 2010, est-ce qu'il a changé? Est-ce que Dieu a failli dans sa miséricorde en 2010? Non. Son bilan est parfait. Sa miséricorde est encore parfaite. Dieu t'a-t-il tendu la main cette année? Est-ce que Dieu t'a tendu la main cette année pour te secourir? Est-ce que tu peux constater ça dans ta vie? Je suis convaincu que oui. Crois-tu que Dieu t'a montré de l'intérêt quand tu as crié à lui? Est-ce que tu crois que c'est en vain qu'on crie à l'Éternel, qu'on crie à Dieu? Non. Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Dieu s'intéresse à nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il vit cet attachement à nos vies, à travers même ses entrailles, ce sentiment qui se vit dans son sein à notre égard. La miséricorde, c'est quelque chose que Dieu ne nous a pas donné, qu'on méritait. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu cette année que tu méritais bien? Il y a des choses qu'on mérite et qu'on ne veut pas avoir, hein? Mais Dieu, dans sa miséricorde, il la manifeste encore pour nos vies, encore en 2010. Dieu est la source de toute réussite. Sa fidélité le témoigne bien. Sa grâce le témoigne bien. Sa bienveillance le témoigne bien. Sa miséricorde le témoigne bien. Et son pardon le témoigne bien aussi. C'est quoi le bilan de Dieu sur le pardon en 2010? Est-ce qu'il a ralenti un petit peu? Est-ce qu'il a baissé cette quantité de pardon qu'il est prêt à accorder? Non. Vous pouvez tourner avec moi dans Ésaïe 55. En attendant, je vais vous lire Hébreux 10, versets 16 à 18. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » La Bible dit, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il a fait une alliance, une nouvelle alliance, une nouvelle entente entre lui et nous. Et est-ce que Dieu va changer son alliance? Est-ce que Dieu va changer les termes de cet engagement-là qu'il y a eu avec nous? Non. Puis ce qu'il a dit, c'est que maintenant, les péchés allaient être pardonnés, allaient être enlevés. Puis quand Dieu allait les enlever, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est le pardon que Dieu accorde. Dans Ésaïe 55, verset 6, vous l'avez trouvé? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Est-ce que Dieu désire la mort du méchant? Non, mais qu'il se repente, nous dit Ézéchiel. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu se tanne pas de pardonner. Une fois, une femme qui est allée acheter un perroquet. Il avait déjà été dressé. Puis malheureusement, ce qu'elle a découvert après l'achat, puis que son perroquet était chez elle, c'est que ce perroquet-là était très impoli. Il était constamment en train de l'insulter sur sa coiffure, sur son linge, en train de l'insulter sur ses manières, sa façon de faire. Et puis, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'inverser ou de changer la vapeur. Et puis là, elle le prenait sur son bras. Puis le perroquet, il continuait, puis il demeurait impoli. Mais elle m'a amené dans un moment où ce qu'elle est plus capable. Elle prend le perroquet, rouvre le congélateur, puis envoie le perroquet dans le congélateur. Elle ferme la porte. Puis là, pendant un instant, il y a un silence complet. Le perroquet, il a arrêté. Fait que là, il est prise de remords. Ça n'a pas de bon sens pour placer le perroquet là. Elle rouvre le perroquet après 20-30 secondes. Puis le perroquet! J'ai dit quoi? Elle rouvre le perroquet. Rouvre le congélateur! Rouvre le perroquet aussi. C'est parfait pour Noël, ça. Rouvre le congélateur, sort le perroquet de là. Puis là, elle est prise de remords. Puis là, le perroquet, il dit, je m'excuse. Je recommencerai plus jamais. Je sais que j'ai été impoli, puis je dirai plus jamais des mauvaises choses comme ça. Puis là, le perroquet, il est confondu en excuses. Puis là, la dame, OK, c'est correct, je t'excuse, là, je te pardonne, merci, là, tu ne recommenceras plus. Ben, OK, il dit, je peux-tu juste poser une question? Ben, oui. C'est quoi que le poulet, il a fait, lui? Le poulet qui était dans le congélateur. Le pardon de Dieu est encore disponible. Le pardon de Dieu est encore disponible pour nos vies. Dieu est prêt à nous pardonner. Et Dieu ne se tente pas au point où il va nous lancer dans un congélateur. Où que, là, je ne suis plus capable. C'est fini avec David. Il recommence tout le temps. Jésus nous a enseigné, ou a enseigné à Pierre, jusqu'à quand je vais pardonner? Jusqu'à 7 fois. Ah non, jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est beaucoup. Si Dieu nous a enseigné ça, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que lui-même va le faire? Est-ce qu'en 2010, Dieu continue de nous pardonner? Je pourrais dire comme Paul, est-ce que parce que Dieu nous pardonne qu'on va pécher? Mais loin de là, parce que la grâce de Dieu surabonde qu'on va pécher. Mais quand même, quand on pêche, on a cet accès auprès de Dieu qu'on peut aller auprès de lui puis lui confesser nos péchés. Puis si la fidélité de Dieu qu'on a vu tantôt, elle est parfaite, puis que Dieu y est fidèle, puis que je viens devant lui pour lui confesser mon péché, est-ce qu'on me les pardonner? Oui, parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est le pardon de Dieu. Est-ce que Dieu t'a pardonné tout ce que tu lui as confessé cette année? Dieu t'a pardonné tout ce que tu lui as confessé cette année. Le bilan de Dieu sur son pardon est parfait. Dieu n'a jamais manqué. Est-ce que Dieu t'a retenu quelque chose parce que tu as fait de quoi qu'il n'est pas capable d'avaler? Si tu lui as confessé, il t'a pardonné. Dieu ne s'est pas tanné de te pardonner. Son pardon est encore disponible. Est-ce que Dieu a pardonné encore les péchés en 2010? Oui. Puis son pardon est encore disponible. Dieu est la source de toute réussite et sa souveraineté le témoigne bien. J'aurais pu citer bien d'autres choses, mais on va conclure sur sa souveraineté. Tournez avec moi dans le psaume 1 Chronique, verset 29. Dieu était souverain dans le passé. Il nous l'a bien montré par la création. Il a montré sa souveraineté sur toute chose. Dieu a montré sa souveraineté à travers le temps. Mais est-ce que les hommes comme David, qu'on va lire, là, de ce que David va témoigner à l'égard de Dieu, ou de ce qu'on aurait pu citer de d'autres personnes, est-ce que le témoignage que nous, on peut dire de Dieu, serait différent de ce que David ou ces autres hommes dans le passé ont dit? Il n'est pas différent, notre témoignage, parce que Dieu ne change pas. Dieu est encore souverain. Je vais juste vous citer psaume 115, verset 3. Une phrase, mais retenez-la, elle est pertinente. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen? Hein? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. David, il dit dans 1 Chronique, verset 29, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Qui témoignait de ça? David, lui-même roi, puis qui est en train de dire, Dieu, c'est toi le roi. 1 Chronique, chapitre 29. Dieu, c'est lui le roi. C'est lui qui a la grandeur, c'est lui qui a la force, c'est lui qui a la magnificence, c'est lui qui a l'éternité et la gloire. Puis tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. Dieu était souverain au temps de David. Est-ce qu'il était encore souverain en 2010? Est-ce que Dieu était encore assis sur son trône en 2010? Absolument. Absolument. Dieu incline le cœur du roi. Dieu arrête la course du soleil. Dieu a fendu la mer en deux pour faire sortir son peuple. Dieu, dès le ventre de notre mère, connaît les jours qui lui sont écrits devant nous. Dieu connaît toutes ces choses-là. Est-ce que Dieu est souverain? Je pourrais parler de Jésus aussi, même sur la terre, tous ses miracles, comment est-ce qu'il a manifesté, qui était bien au-dessus de tout élément. Mais qu'en est-il de Dieu, de sa souveraineté, pour moi en 2010? Est-ce que quand viennent des épreuves, des difficultés, Dieu est encore souverain? Est-ce que Dieu est encore au contrôle? Est-ce que si notre monde va mal, parce qu'on pourrait dire des fois, on regarde nos nouvelles, bientôt on va avoir les bilans des nouvelles, bientôt là, ce qui sort, là, on a le bilan de l'année, de toutes les nouvelles qui s'en viennent, puis je suis à peu près sûr qu'à 95%, ça va être des mauvaises nouvelles. Hein. Et puis on va regarder ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu est quand même au contrôle? Absolument. Dieu est au contrôle. Mais quand ça se passe dans nos vies personnellement, si on a des difficultés, des circonstances qui sont difficiles, est-ce que tu crois que Dieu est le roi? Est-ce que tu crois que Dieu, pas simplement qu'il est le roi pour avoir un titre, mais qu'il exerce une fonction de roi qui est capable de bien et de tout diriger, d'intervenir sur tout et sur n'importe quoi? Dieu est assis sur son trône encore en 2010. Est-ce que Dieu peut intervenir dans ta vie? Est-ce que Dieu est souverain sur ton couple? Est-ce que Dieu est souverain sur tes enfants, tes relations familiales? Est-ce que Dieu est souverain quand vient le temps de trouver un travail? Est-ce que Dieu est souverain quand vient le temps, par exemple, de réussir des examens? Est-ce que Dieu est souverain sur tous les aspects de nos vies? La réponse, c'est que oui, Dieu est souverain. Puis Dieu sera toujours souverain. Puis Dieu sera toujours assis sur son trône. Ce qui va changer, par exemple, c'est notre reconnaissance face à ça. L'accès qu'on va y donner dans nos vies. J'aurais pu parler, ce matin, j'ai parlé de sa fidélité, de sa grâce, de sa bienveillance, de sa miséricorde, de son pardon, de son témoignage de souveraineté. Peut-être qu'on va oublier certains aspects de ce qu'on vient de voir ce matin. J'aurais pu parler de son omniscience. Dieu sait tout. Dieu est présent. Il est omniprésent. J'aurais pu parler de sa patience. J'aurais pu parler de sa sainteté. J'aurais pu parler de sa justice. J'aurais pu parler que Dieu est un Dieu vrai, de vérité. On aurait pu passer plusieurs dimanches encore à parler et à faire le bilan divin, le bilan de Dieu. Dieu est parfait. Dieu n'a pas changé depuis ces années. En 2010, Dieu est demeuré Dieu. En 2011, Dieu va être encore Dieu. Ce que Pierre nous dit, c'est que certains oublient, par exemple, la promesse que Dieu a faite. Puis si Dieu n'est pas en train de tarder dans la promesse qu'il va accomplir, ce que Dieu fait, c'est qu'il est patient envers nous. Parce que Dieu veut qu'aucun périsse. Que tous viennent à lui. Si des fois on est confondu avec l'action de Dieu dans le temps que nous on aimerait, Dieu demeure souverain. C'est Dieu qui agit quand il veut. Mais le bilan de Dieu sur tous ces aspects, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu a réussi sur toute la ligne. D'année en année, les bilans de Dieu sont toujours parfaits. Ça, c'est encourageant pour nous. Parce que si j'ai des manques dans ma vie, si je peux constater en 2010, j'ai telle difficulté dans ma vie, est-ce que Dieu peut t'aider? Que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans tes finances, que ce soit à ton travail, que ce soit aux études, est-ce que Dieu peut t'aider? Oui. Dieu est encore accessible, Dieu est encore disponible, Dieu est encore intéressé. Et puis ça va être vrai pour toujours. Faire le bilan de Dieu nous emmène à découvrir que si nous manquons, Dieu lui manque jamais. Mais si nous sommes découragés, il y a toutes les ressources disponibles pour nous. Commencez 2011 aussi. Parce que Dieu est la source de toute réussite. Je vais conclure en priant, s'il vous plaît. Seigneur, on vient devant toi. Parce qu'on veut être de ces gens, nous aussi, Dieu, comme ce qu'on a fait de ces citations tantôt. Toutes ces citations dans ta parole. On veut être de ces gens pour nous aussi ce matin qu'on peut dire qu'on constate qui tu es. Dieu, tu es parfait. Tu es un Dieu qui est intéressé à nos vies. Tu nous rends disponible encore ta grâce, ta miséricorde. Tu es demeuré fidèle. Ton pardon est demeuré accessible. Tu es demeuré souverain. Tu es demeuré saint, juste. Tu nous dis dans ta parole que tu changes jamais, que tu changes pas. Puis c'est pour ça que nous aussi, on peut dire que tu es notre refuge, que tu es notre rocher, notre forteresse. Dieu, c'est en toi qu'on trouve notre repos. C'est en toi qu'on peut se reposer. Parce que oui, il nous arrive d'être infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Puis Dieu, nous aussi, ce matin, on veut te louer, t'adorer, puis dire comme David, qu'on te loue, qu'on t'adore, que c'est toi notre Dieu, puis qu'on est fier que tu le sois. Puis Dieu, on veut te prier, nous aussi, que ton règne vienne. On a hâte que tu viennes rétablir cette justice sur la terre comme au ciel. On a hâte, Dieu, d'être en ta présence pour toujours. Mais en attendant, on veut vivre en te ressemblant de plus en plus. On veut vivre, nous aussi, dans la fidélité. On veut vivre, nous aussi, en te ressemblant dans tous ces aspects que tu nous enseignes de ta personne. Dieu, t'es disponible. Tu t'es montré disponible encore en 2010. On veut te dire merci et on veut t'adorer pour ça. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.